Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 92. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Tout commence par le visuel. C'est ce que m'a dit Afifia Belabdoun, la content manager de Canva, quand on a commencé à parler de nos méthodes de travail. Elle m'a dit on commence toujours par le visuel parce que le résultat doit être visuel. J'ai trouvé cette idée super intéressante parce que l'image est souvent bien plus forte que les mots, qu'elle transmet quantité d'émotions, d'informations et de codes parfois insoupçonnés. Et puis en discutant, je me suis rendu compte que le traitement et l'importance de l'image étaient souvent sous-estimés dans nos métiers. Non pas qu'on ne veuille pas travailler nos visuels, mais c'est juste qu'on n'a pas tout le budget pour se payer un graphiste, qu'on n'a pas non plus nécessairement les connaissances pour dégainer la suite Adobe et tout construire nous-mêmes. Et même si on savait le faire, ben, on n'en aurait probablement pas le temps. Du coup, ben, on fait ce qu'on peut, et malheureusement, c'est pas toujours idéal. Oui, sauf que ben, c'est plus vrai aujourd'hui, parce qu'il y a un outil qui a révolutionné le design graphique, alors oui, vous me voyez venir, cet outil, c'est Canva. Bon, si vous avez vécu dans une grotte ces 5 dernières années, Canva, pour faire simple, c'est un site internet qui vous permet de créer des visuels ultra pro et percutants, en quelques clics, même si vous n'y connaissez rien. On est super nombreuses à utiliser Canva très régulièrement, mais l'immense majorité d'entre nous, et clairement, quand je dis ça, je me mets dedans, l'immense majorité d'entre nous n'utilise pas un dixième des possibilités de Canva. Alors, comme j'avais une spécialiste de Canva sous la main, alias Afifia Belabdoun, je lui ai demandé de nous expliquer comment tirer le meilleur parti de ce super outil pour travailler plus efficacement et surtout produire de meilleurs visuels rapidement et facilement. Avec Afifia, on a parlé de la force des couleurs, de l'incarnation d'une marque, de partage et d'inconscient. Il faut que je vous dise qu'avant d'être content manager de Canva, Afifia a étudié le rapport entre art et philosophie. Rien que ça, moi, ça me fait rêver. Et puis allez, je vous fais un petit teasing, je vous dis tout à la fin de l'épisode, mais Afifia nous a réservé une belle surprise. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez aller voir sur lepodcastdumarketing.com/canva. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Afifia Belabdoun. Bonjour Afifia et bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle, merci pour l'invitation.
Bah écoute, je suis vraiment super heureuse de t'accueillir sur le podcast du marketing. Aujourd'hui, on va parler de Canva. Canva, je pense que à peu près tout le monde maintenant sait ce que c'est que Canva. Moi, j'en parle souvent sur le podcast du marketing comme un outil que j'utilise moi perso et franchement, je le recommande parce que je trouve que c'est un outil juste révolutionnaire pour pouvoir faire des super visuels. Mais je sens bien quand je l'utilise que j'utilise qu'une toute petite portion de toutes les choses qu'on peut faire avec Canva. Donc, je t'ai demandé et tu as gentiment accepté de venir pour qu'on en discute un peu plus en détail et que tu nous donnes un petit peu tes tips sur comment faire. Donc, écoute, juste avant peut-être qu'on parle de tous ces tips et de comment est-ce qu'on peut utiliser Canva au mieux, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais avec tes mots à toi?
Oui, alors je m'appelle Afifia, je travaille chez Canva depuis 5 ans maintenant en tant que content manager et Je m'occupe également de tout ce qui est partenariat, de tout ce qui est développement de la marque en France, parce que Canva, c'est une entreprise australienne, c'est un outil graphique qui permet de créer tout et n'importe quoi, quel que soit votre domaine, mais c'est une entreprise qui est australienne à la base, et donc qui s'est développée dans plusieurs pays et donc dans plusieurs langues. Donc nous, on s'occupe de Canva France, Canva francophone. Donc c'est un poste et une entreprise et un métier qu'on aime beaucoup faire, que ce soit moi ou les autres personnes de mon équipe. Et c'est un challenge qui est intéressant aussi parce que c'est une entreprise qui prend de plus en plus d'importance, qui est clairement devenue très importante aujourd'hui, mais qui fonctionne avec sur le fonctionnement en gros d'une start-up et qui permet du coup pas mal de liberté, pas mal de créativité. On teste beaucoup de choses, on parle beaucoup d'identité visuelle, de développement de marque, on rencontre beaucoup de gens qui sont confrontés à ces problématiques-là. Et moi, sinon, personnellement, je suis philosophe et journaliste de formation. Et donc, je suis venue à Paris, je viens du Sud à la base. Je suis venue à Paris à 23 ans. J'ai travaillé très rapidement dans les médias et l'édition. Et je faisais à côté, pour m'amuser, de la conception rédaction, pour dépanner des amis à côté de moi, des amis proches ou des connaissances qui avaient besoin d'aide pour leur site, etc. Ça m'amusait beaucoup. Et donc, de fil en aiguille, le travail de conception rédaction a pris le dessus sur les médias, l'édition, etc. Et je me suis rapidement retrouvée à travailler autour de la communication, autour de la question de l'image, qui était également une thématique qui était importante pour moi quand j'étais étudiante, puisque j'étais surtout spécialisée dans la philosophie de l'art, donc le traitement de l'image, qu'est-ce qui fait qu'une image fonctionne ou fonctionne pas, qu'est-ce qui va toucher l'inconscient, qu'est-ce qui fait qu'une image va être plus marquante qu'une autre, etc. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce dans quoi je travaille actuellement.
Écoute, je suis même sûre que tu es la première philosophe que je reçois sur le podcast du marketing. Et je ne savais pas cette anecdote-là, que tu étais philosophe de formation. Je trouve ça assez super. Et surtout, ce que tu viens de dire.
Non, j'ai fait des études de philosophie.
Dis-moi.
Non, je suis diplômée en philosophie. De là à dire que je suis philosophe en soi, non, je suis philosophe de formation. Je tiens quand même à faire la différence. Je respecte beaucoup trop les philosophes pour me définir moi-même comme étant philosophe.
Ok, pour moi, tu te rapproches vraiment beaucoup d'une philosophe quand tu sais que j'ai eu 7 en philosophie au bac littéraire. Donc, on a un gap, toi et moi. Mais en tout cas, génial. Et j'adore ce que tu dis sur la philosophie de l'art. Alors, pour le coup, moi, je suis très sensible à l'art, pas du tout d'un point de vue professionnel, évidemment, mais d'un point de vue complètement perso. Et je trouve ça super intéressant, l'analogie que tu faisais. Enfin, en tout cas, ce dont tu parlais du rapport à l'image, du rapport aux couleurs et de l'inconscient. Donc, je pense qu'il y a plein de choses, effectivement, dont on va pouvoir parler avec cet outil Canva. On touche à beaucoup de ces éléments-là. Sans qu'on s'en rende forcément compte, donc je trouve ça super intéressant. Et puis deuxième truc, je ne savais pas que Canva était australien. Alors moi, tu vois, j'ai vécu en Australie, donc j'adorais déjà cette application Canva, mais alors là, je l'aime encore plus si c'est une appli australienne, enfin un site australien, un outil australien, je suis encore plus contente. Donc écoute, tout ça, ça démarre super bien. Écoute, je voulais qu'on discute de Canva, je le disais un petit peu en intro, parce que c'est un outil qui est venu un petit peu, je ne sais pas depuis combien de temps on utilise Canva, je dirais que ça fait peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, moi que je l'ai, je ne sais pas, tu as peut-être plus en tête le timing, mais j'ai l'impression que c'est quand même relativement récent encore que un petit peu tout le monde, que ce soit totalement démocratisé et que tout le monde l'utilise au quotidien. Et j'ai l'impression que c'est un outil qui évolue très très vite et qu'il y a plein de choses qui se rajoutent en permanence sans forcément qu'on s'en rende totalement compte. Et de deux, je suis assez persuadée effectivement que, en tout cas moi, je n'en utilise qu'une infime partie de tout ce qu'on peut faire avec. Donc je trouvais ça intéressant qu'on en discute et que tu puisses nous donner ta vision. Et puis nous expliquer peut-être des choses, des outils, des choses qu'on peut faire avec Canva au quotidien quand on est pas forcément graphiste d'ailleurs, hein, mais quand on est juste entrepreneur et qu'on veut créer ses visuels ou autres d'ailleurs. Et voilà, et comment faire pour que ça puisse nous simplifier la vie. Première chose d'ailleurs, on en discutait en off tout à l'heure toutes les deux. Toi, ce que tu me disais, c'était que finalement Canva, vous l'utilisez dans votre façon de travailler, dans votre day-to-day job, quoi, pas seulement pour créer de la pure image, vous l'utilisez en permanence en fait, c'est ça que tu me disais ?
Bien sûr, nous on travaille avec Canva, et puis d'ailleurs là l'objectif de Canva c'est de devenir un outil tout en un, c'est pour ça que il y a plusieurs corps de métier qui peuvent l'utiliser, également les gens qui ne sont pas professionnels, qui veulent juste faire de la création personnelle. Donc, il n'y a pas de limite de limitation de domaine, de métier, etc. N'importe qui peut l'utiliser. Et c'est d'autant plus important que Canva a été créé en 2013, pour répondre à ta question précédente, à la mention précédente.
Ah oui.
Donc, mais à l'échelle d'une entreprise, c'est très récent. À l'échelle d'une entreprise d'une telle importance, c'est quand même assez récent. Ça fait moins de 10 ans. Donc, c'est une entreprise qui est encore en pleine évolution. Et Mélanie Perkins, la créatrice, était à la base enseignante, elle était graphiste, enseignante à l'université, et elle s'est rendue compte que ses étudiants mettaient entre 2 à 3 mois à ne serait-ce que comprendre les boutons des outils de création graphique classiques, donc Adobe, voilà, la suite Adobe pour ne pas la citer, et son fiancé étant ingénieur, ils ont travaillé ensemble pour faire un outil qui soit simple. Donc la première logique, la première raison d'être de Canva, c'est de simplifier la création graphique. L'idée de simplification, c'est vraiment le mantra. D'ailleurs, même nous, quand on travaille ou quand on met en avant un projet, il faut que ce soit simple. Tout doit être simple. À partir du moment où, quand on veut mettre en place une campagne ou lorsqu'on veut mettre en place un projet, on perd trop de temps dans les explications ou l'explication dure plus de 5 lignes, c'est que c'est pas assez simple et donc que c'est pas évident et donc on passe à autre chose. Point. Donc ça, c'est vraiment une façon de travailler qui est claire. Et dans l'idée de simplification, il y a aussi l'idée de mise en image. C'est-à-dire que ce qui fait que l'image est plus percutante que des mots ou qu'un livre ou que d'ailleurs à mon grand regret parce que moi j'adore la littérature, mais ce qui fait que aujourd'hui c'est l'image, le visuel, c'est parce que c'est facile, parce que c'est une porte d'entrée justement dans le cerveau, dans l'inconscient, qui est plus directe. Voilà. Et donc cette idée de mise en image, elle est utilisée également dans notre façon de travailler. C'est pourquoi je te disais justement aussi en off que quand on travaille, on utilise très rarement, par exemple, Google Doc. On part très rarement d'une page blanche pour exposer un projet ou pour définir la ligne éditoriale ou la ligne de développement d'une campagne. On part directement de Canva. On utilise un template, la plupart du temps, un des templates présentation qu'on met en colorisation avec les couleurs de notre marque, etc. Comme ça, on peut créer des dossiers qui sont à nos couleurs de marque et ça crée une cohérence. Et c'est ce qui permet aussi l'identification en termes d'équipe, parce que nous, chez Canva, on est plus d'une dizaine de pays à travailler ensemble. Donc, c'est important de créer aussi une cohérence, d'avoir l'impression qu'on travaille tous ensemble dans la même entreprise alors qu'on est à des milliers de kilomètres les uns des autres. Donc voilà, donc ça c'est le truc de base. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que quand on commence à travailler ou à définir une campagne ou à penser à un projet en partant d'un visuel, la mise en réflexion, la mise en pratique est différente. On n'a pas les mêmes process, on n'a pas les mêmes idées, et donc c'est important, même si au début ça peut être difficile. Quand on a passé 10 ans à travailler avec Google Doc, à travailler sur des stratégies et avec un management qui est classique, donc avec des plans, etc. et tout, et que du jour au lendemain on passe à un travail sur visuel, ça peut être difficile, mais ça vaut le coup d'insister parce que ça ouvre des portes mentalement et en termes de créativité.
Et alors, ouais, qu'est-ce que ça veut dire justement, pardon, hein, creusons parce que je trouve ça super intéressant comme sujet, qu'est-ce que ça veut dire justement de partir du visuel et qu'est-ce que ça change dans la façon de travailler? On voit les choses différemment parce qu'on démarre du visuel au lieu de démarrer par le texte, c'est ça?
Alors, c'est plus qu'on a une pensée visuelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser un template de présentation, et d'ailleurs, il n'y a pas que Canva qui le fait, il y a beaucoup d'autres entreprises et d'indépendants qui le font de plus en plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer leur projet, avec des phrases longues sur un Google Doc, on va directement intégrer un esprit de synthèse. C'est-à-dire, on va d'abord noter quelles sont les thématiques importantes, les grands angles, et ensuite, on va les mettre en valorisation dans des tableaux. On va, en gros, illustrer les données qui sont nécessaires et on ne passe pas son temps à avoir beaucoup, beaucoup de textes. L'avantage aussi de créer ces lignes de projet, ces lignes de campagne sur des templates et notamment sur Canva, c'est que comme tous les documents, comme vous pouvez partager vos documents, les autres membres de votre équipe peuvent ajouter des éléments, les modifier, etc. Et puis surtout, n'importe qui y a accès. En général, sur Google Doc, quand tu partages ton Google Doc pour exposer ton projet, la personne peut ajouter des notes avec des commentaires, par exemple. Et en général, c'est des commentaires dans la colonne, à droite, etc. C'est moins visible, c'est plus complexe. Et puis aussi, c'est en décalage avec l'évolution, avec l'audience, avec ce que voit l'audience. Donc, comme l'audience est en contact, l'audience et puis aussi vos clients, vos partenaires, etc., comme les gens sont en train de développer un rapport au visuel qui est particulier avec les réseaux sociaux, etc., c'est plus que primordial que de travailler sur des supports qui correspondent au mode de compréhension et au mode de consultation de l'époque actuelle. Et donc, travailler sur un template, prendre en compte l'aspect visuel, l'aspect direct, l'aspect concis, c'est important. Parce que le visuel, c'est pas que l'image. Le visuel, c'est aussi quelque chose qui est rapide, qui est concis, qui est clair et qui ne fait pas perdre de temps sur la lecture, etc. On comprend directement.
Ouais, j'aime beaucoup cette idée de simplification, ce que tu disais au tout début quand tu disais chez Canva, si on expose une idée qui prend plus de 5 lignes, on n'y va pas parce que ça veut dire que c'est trop compliqué et que donc il faut aller vers vraiment de la simplification. Et c'est vrai que le visuel, je te rejoins complètement, il a cet avantage-là de nous faire passer plein de messages. Conscient ou inconscient d'ailleurs, et selon les pays, selon les cultures d'ailleurs, on les décrypte différemment. C'est un autre sujet, on va pas partir là-dedans, mais en tout cas, ça fait passer énormément de choses, le visuel, qu'on comprend de façon quasi immédiate. Donc c'est effectivement super super intéressant. En off, quand on préparait cet épisode, tu m'as dit une phrase que j'ai notée parce que je l'ai trouvée vraiment chouette. Tu m'as dit chez Canva, on commence toujours par le visuel parce que le résultat doit être visuel. Je trouve que c'est ultra fort de se dire. Moi, je cherche in fine à avoir quelque chose de visuel parce que je veux quelque chose de clair. Je vais avoir une image dans la tête de la personne à qui je parle, que ce soit mon audience ou un collègue, hein, peu importe finalement. Donc, on va, dès le départ, au lieu de commencer par du texte ou du verbal, on va commencer par du visuel pour construire un peu notre idée, notre chemin de pensée visuellement. Je trouve ça super, super intéressant. Quand on parle de visuel, il y a un autre élément dont on voulait parler ensemble, c'était le côté identité visuelle finalement de notre marque ou du groupe de personnes avec qui on parle. Comment est-ce qu'on peut travailler ça avec Canva ?
Alors, l'identité visuelle, donc c'est un élément très important de l'identité de marque, hein, ça fait partie d'une composante effectivement essentielle. Il y a différentes façons de la travailler. Alors d'abord, l'identité visuelle, elle dépend aussi, ça peut paraître hors sujet, mais c'est quand même en lien. Avoir une idée assez claire de la marque que l'on veut créer, avoir une idée des valeurs de la marque que l'on veut défendre, c'est quelque chose de très important. Parce que les valeurs que l'on défend, quand on crée une marque, elles doivent évidemment être en accord avec les valeurs que vous défendez personnellement, c'est-à-dire qu'en gros, on va pas créer une marque qui est faite pour les familles et défendre des valeurs familiales si en soi, profondément, on ne croit pas en la famille, par exemple. Il faut être en accord avec ça. Donc ça, c'est quand même important parce que la force d'une image, elle relève d'éléments conscients, donc visibles, mais également d'éléments inconscients. Et on sent, les gens sentent en fait quand une marque est sincère ou pas, même si on n'a pas les connaissances, il y a des choses qui sont presque primaire, primitive en fait. Ouais. Quand en Occident, il y a des comportements, des réactions inconscientes par rapport à l'image, qui donnent lieu à des études très sérieuses, qui sont des choses qui sont très connues, que des gens comme Léonard de Vinci, comme les peintres de la Renaissance ont beaucoup travaillé sur ça. Également au XXe siècle, la publicité a beaucoup travaillé sur ça. Elle a d'ailleurs basé un grand nombre de connaissances publicitaires et d'études de l'image est basée sur ce genre de données inconscientes. Qu'est-ce qui va faire qu'une image va marquer ou pas marquer? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un aura envie d'acheter un produit, etc. Donc c'est des choses qui sont réelles. La première des choses, c'est ça, c'est d'être en accord avec vous-même. Une fois que vous êtes en accord avec vous-même, sur Canva, il y a une première étape qui est essentielle, c'est l'étape identité visuelle que vous pouvez trouver dans la partie latérale gauche de la home, de la page d'accueil de Canva. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez entrer tous vos éléments de marque, c'est-à-dire vos différentes typographies, vos différentes couleurs et tous vos éléments visuels, à savoir, ça peut être les logos, ça peut être les bannières, ça peut être n'importe quoi. Il y a toutes les évolutions de logo. Et ça, c'est ce qui s'appelle le tableau de bord de marque, que nous, on appelle le tableau de bord de marque, mais qui se trouve dans la section identité visuelle. Et ça, c'est génial parce que une fois que vous entrez tous vos éléments, lorsque vous allez passer sur votre plan de travail, que vous avez votre bloc de création, à gauche, dans la colonne où il y a tout, toutes les fonctionnalités, vous allez pouvoir retrouver très facilement les couleurs de votre marque, les logos de votre marque, etc. et adapter en un clic tous vos visuels à votre identité visuelle. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter les couleurs manuellement de votre marque, etc. Votre visuel peut s'adapter automatiquement aux couleurs et à la typographie de votre marque. Donc ça, c'est un gain de temps et un réflexe qui est important d'avoir. Et en plus, ce tableau de bord peut se partager avec tous les membres de votre équipe, avec tous les gens avec qui vous avez partagé votre compte Canva. Et de ce fait, il n'y a pas besoin d'envoyer des logos, de faire des allers-retours de visuels. Tout le monde est à jour sur la nouvelle version du logo, sur la nouvelle version de la typo, sur les nouveaux dégradés de couleurs, etc. Et tout. Donc ça, déjà, l'identité visuelle, si vous voulez maîtriser ça, sur Canva, ça passe par là.
Ah, mais alors ça, je pense que là, tu viens de parler au cœur de tous les chefs de produits et n'importe qui bosse dans un service marketing, notamment pour avoir fait le gros de ma carrière dans des services marketing. La plaie, c'est de retrouver ce satané logo et la dernière version et d'avoir tous le même avec les mêmes règles de placement, etc. Donc, c'est quand même super intéressant. Je suis d'accord avec toi. Ça fait gagner un temps fou. Et puis surtout, c'est pas là-dessus qu'on doit dépenser notre énergie finalement. Donc, autant effectivement avoir tous les éléments de l'identité visuelle qui sont disponibles et qui s'adaptent automatiquement, enfin en tout cas en trois clics à un visuel, et pouvoir se concentrer finalement sur ce qui est important, c'est-à-dire la création finalement visuelle, graphique, etc.
Exactement. Et puis plus vous allez utiliser et travailler avec votre identité visuelle, plus il va y avoir quelque chose qui va s'opérer entre ce que vous observez de vos documents et vous-même, et donc vous allez améliorer ce qu'on peut appeler l'incarnation. C'est-à-dire que vous allez incarner votre marque, en fait. Vous allez vous incarner dans vos couleurs et vos couleurs, votre identité visuelle va s'incarner en vous. Ça va vous aider encore plus à crédibiliser vos propos, vos valeurs, votre marque, vos actions. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en général, qui est parfois sous-estimé à tort. Et c'est vrai que le tableau de bord de Canva n'est pas forcément la chose qui est la plus utilisée. Et j'ai été très surprise de découvrir ça en rencontrant des gens qui créent des startups ou des étudiants, etc., qui sous-estimaient un petit peu cette fonction d'identité visuelle sur Canva.
Ah non, c'est sûr, la cohérence visuelle, c'est ultra, ultra, ultra important. Il y a un élément justement dans la cohérence visuelle qui n'est pas toujours si simple à faire, et pour ça Canva, je trouve, est assez génial, je voudrais que tu nous en parles, c'est le fait de pouvoir adapter une même image sur différents formats. Souvent, on va avoir besoin d'avoir, on crée une campagne de pub. Je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. On crée une campagne de pub, on a besoin d'un visuel carré, puis d'un coup, on a besoin d'un visuel vertical. Par exemple, carré, on est sur Insta, vertical, on est sur Pinterest, pour donner un exemple. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que Canva peut nous aider à travailler ça, à travailler les différents formats ?
Alors, il y a un outil qui s'appelle l'outil de redimensionnement ou le redimensionnement magique. On l'appelle redimensionnement magique entre nous parce que c'était son nom d'origine. Et c'est également le nom en anglais, puisqu'en anglais, on dit Magic Resize. Et pour des contraintes de SEO et de limitation de lettres, on l'a appelé redimensionnement, mais c'est vraiment un outil magique. Et donc, du coup, en gros, ça vous permet de réadapter un visuel à toutes les plateformes. Je m'explique. Vous créez, par exemple, un visuel sur un template. Vous utilisez un template Instagram, par exemple. Vous créez un visuel, vous aimez beaucoup votre visuel et vous souhaitez l'adapter à tous les supports. Par exemple, vous voulez le transformer en bannière de newsletter ou en cover Facebook ou en cover YouTube. Vous pouvez directement redimensionner votre visuel créé initialement et vous cliquez sur redimensionner. Vous sélectionnez les modèles et les types de templates auxquels vous voulez adapter votre modèle initial et vous cliquez sur redimensionner et tout est automatiquement traduit et redimensionné au format souhaité sans avoir besoin de refaire le visuel de A à Z pour chaque support et chaque plateforme. Donc ça, c'est un gain de temps de fou. Ça vous permet en plus de travailler encore une fois cette idée de déploiement et de cohérence en fait visuelle parce que ça vous permet de pouvoir créer un même visuel sur toutes les plateformes, de le mettre sur toutes les plateformes en un clic en l'ayant créé une seule fois. Donc c'est un gain de temps qui est assez conséquent. Alors c'est une fonctionnalité contrairement aux autres fonctionnalités qu'on va aborder aujourd'hui, je pense, qui est sur Canva Pro uniquement. Mais rien que cette fonctionnalité, je trouve qu'elle mérite, elle vaut le coup de prendre Canva Pro parce que le temps qu'on perd à créer plusieurs visuels avant, ben, je sais que d'expérience, j'ai pu perdre beaucoup, beaucoup de temps à créer des visuels pour différentes plateformes. On crée un visuel déjà qui prend du temps et on se rend compte qu'en plus, on doit le réadapter, etc. C'est très long, donc oui, c'est un outil qu'on utilise, nous, de toute façon, quotidiennement. Chez Canva, hein, pour...
Ouais, non, mais c'est clairement, je te rejoins, hein, c'est clairement quand tu dis en anglais, ils utilisent le terme Magic Resize, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le temps qu'on peut perdre à redimensionner un visuel, voire à se rendre compte qu'on n'arrive pas à le redimensionner, parce que souvent, il y a ça aussi, c'est quand même assez génial de pouvoir se dire, en un clic, j'ai tous les formats qui me conviennent pour pouvoir faire mes différentes campagnes, et surtout, pour que ma campagne, j'utilise le mot campagne, mais en fait, c'est pas forcément campagne, c'est ma communication, soit cohérente partout. Parce que quand même, la base du marketing, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le marketing, la base du marketing, c'est la cohérence. Quand t'es chef de produit, moi, quand j'étais jeune chef de produit, la base de mon métier, ce pourquoi, donc je travaillais dans un service international, donc tu vois, un peu comme chez Canva, on avait, je sais plus combien j'avais, de pays différents, de cultures différentes, et fallait être le garant, une espèce de garde-fou pour s'assurer que chacun de nos petits marchés, qui faisaient bien ce qu'ils voulaient, ces petits coquins, fallait s'assurer qu'ils respectaient finalement la cohérence de marque, parce que la marque, c'est un petit peu le chapeau qui vient au-dessus de tout et qui fait que, ben, inconsciemment, justement, cette marque est incarnée, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, cette histoire de redimensionnement, parce que, ben, tu vas te rendre compte que, je prends le cas des différents marchés, mais ça peut être le cas d'une personne qui est seule et qui fait, comme tu disais, une bannière sur son header de newsletter et puis un visuel sur Insta et je ne sais quoi. Il faut s'assurer qu'on va pouvoir répondre aux problématiques et aux besoins de différents formats. C'est méga important. Ça peut prendre un temps de fou. On peut s'arracher les cheveux là-dessus. Et là, on a un système qui, en un clic, va nous permettre de le faire. Tu disais à l'instant, ça, c'est un outil et c'est probablement un des seuls qui est sur Canva Pro dans les outils dont on parle aujourd'hui. Je le donnerai juste après, mais vous êtes super sympa chez Canva et vous m'avez donné un petit code promo pour que les auditeurs et les auditrices du podcast du marketing puissent avoir Canva Pro avec une super condition. Donc, je donne ça à la fin de l'épisode. Pas de souci, mais en tout cas, sachez que c'est carrément faisable et surtout, vous allez gagner vachement de temps avec cet outil. Donc, surtout à ne pas mettre de côté. En plus du redimensionnement, il y avait un élément, moi, dont je voulais absolument qu'on parle, et notamment t'en parlais tout à l'heure déjà très, très bien dans ta présentation quand tu nous disais que tu avais travaillé sur la philosophie de l'art et le rapport à la couleur. Est-ce qu'on peut parler des outils couleurs et de ce que la couleur, justement, peut apporter dans notre travail de communication au sens général?
Oui, alors, la couleur, c'est quelque chose de très, de fondamental. C'est-à-dire qu'on peut avoir un visuel qui n'est pas poussé particulièrement, mais ce qui va faire qu'un visuel va marcher ou pas, il y a deux choses. Il y a d'abord la disposition, c'est-à-dire si tu fais une disposition bordélique, ça va pas le faire, et il y a la couleur. Et la couleur, c'est le premier élément qui va capter l'attention. Et donc, c'est un élément qui a été étudié depuis très très longtemps, depuis des siècles et des siècles, que ce soit en art, en peinture. D'ailleurs, beaucoup d'enseignements qu'on a aujourd'hui viennent de peintres et donc de cet art qui travaillait justement la couleur, qui étudiait le mélange des couleurs, essayait de capter. En fait, avec la couleur, ce que vous faites, c'est que vous créez le focus. On va la faire simple. Vous créez le focus. Mmh. Et donc, parfois, quand vous défilez dans le feed Instagram, vous allez défiler, etc., et parfois, vous allez vous arrêter sur une image. Très souvent, quand vous vous arrêtez sur une image, c'est parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a quelque chose qui vous a capté dans la couleur, en fait. Il y a un jeu, un équilibre dans la combinaison des couleurs qui a été respecté et qui a fait que, du coup, ça a créé un effet wow qui vous a donné envie de cliquer. En termes de couleurs, très souvent, c'est le point noir, ou en tout cas le domaine sur lequel il y a le plus d'erreurs chez nos utilisateurs, parce que c'est le point le plus difficile quand on ne connaît pas et quand on n'a pas l'habitude et qu'on crée alors qu'on n'a absolument aucune idée de l'étude des couleurs et de la pertinence des couleurs. On va essayer d'utiliser les couleurs parce qu'elles nous plaisent, parce que celle-ci est jolie, parce que voilà, etc. Il y a des règles fondamentales à connaître en colorimétrie. Mais si vous utilisez Canva et que vous ne connaissez pas ces couleurs, il y a des solutions. Il y a un lien qui s'appelle... de toute façon, je pense que je te l'enverrai.
Ouais, je le mettrai dans les notes de l'épisode, aucun souci.
Ouais, il y a plusieurs fonctionnalités de couleurs sur Canva, mais il y a un lien qui vous permet de réunir toutes ces fonctionnalités juste en cliquant qui sont disponibles en ligne. Moi, je les utilise par exemple beaucoup en ligne. On est plusieurs à l'utiliser de cette façon sur Canva. Dans la section couleurs, il y a 4 fonctionnalités fondamentales. La première, c'est le Color Palette Generator. Le Color Palette Generator, en quoi il consiste ? Vous entrez une photo, n'importe laquelle. Par exemple, vous voulez créer une newsletter avec la photo de membre de votre entreprise. Et vous voulez du coup créer une newsletter, un template qui soit en accord avec cette photo. Vous entrez la photo, le Color Palette Generator va extraire toutes les couleurs de la photo et va vous extraire les meilleures palettes, les plus pertinentes à utiliser pour créer un document qui soit en accord avec cette photo. Donc du coup, vous choisissez une des palettes que le Color Palette Generator va vous proposer et vous ne pouvez pas faire d'erreur en termes de colorimétrie sur votre visuel. Ça, c'est une première chose. Deuxième outil, c'est le Color Palette IDs. Ça, c'est une plongée au pays des couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un lien où en gros, vous avez plein de palettes qui sont ajoutées et mises à jour régulièrement par les designers de Canva. Où en gros, ce sont des palettes, les palettes qui marchent le mieux. Si par exemple, vous voulez créer un visuel, mais que vous n'avez aucune idée des couleurs, des couleurs à utiliser, vous cherchez de l'inspiration, vous cherchez des idées, etc., plongez là-dedans, c'est un bon point de départ. En termes d'inspiration, toujours, on a une page qui s'appelle la signification des couleurs, Color Meanings. Je ne sais pas si le titre a été localisé, mais le reste l'est. La signification des couleurs, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment en Occident, chez nous. Alors, en Orient aussi, les couleurs sont très différentes, mais en tout cas, en termes d'universalité, d'impact des couleurs, en Occident, il y a des éléments qui sont universels, c'est-à-dire que si vous êtes né en Occident, vous êtes programmé inconsciemment pour répondre pour répondre et avoir des stimuli particuliers face à telle ou telle couleur. Par exemple, en Occident, le bleu est une couleur qui signifie la solidité, l'apaisement, quelque chose de pérenne, une mer calme, une mer d'huile, quelque chose, voilà. La couleur rouge, c'est plutôt à l'opposé, une couleur qui indique le mouvement, l'énergie, parfois même l'agressivité, mais même si c'est pas toujours le cas, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus énergique, de beaucoup plus dans le mouvement. Le vert, c'est une couleur qui est en lien avec l'espoir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs qui indiquent ça. Le jaune, c'est la couleur de l'énergie positive, de l'extrême positivité. Le violet, c'est la couleur de la féminité, etc. Et à l'intérieur de chaque couleur, il y a des tonalités, des différences de tons qui, eux-mêmes, ont leur propre signification également. Et donc, c'est important de connaître la signification des couleurs. Nous, moi, personnellement, c'est ma passion, donc je les connais bien, mais parfois, lorsqu'on veut créer un visuel et qu'on n'a pas d'inspiration, on peut du coup aller se rendre sur cette page et regarder les différentes évocations des couleurs et créer un visuel par rapport à l'évocation, par rapport à ce qu'on veut transmettre. Si par exemple on a envie de créer un visuel qui est hyper positif, hyper frais, hyper lumineux, etc., on va pouvoir du coup regarder les différentes tonalités entre le rouge, le orangé, le jaune, etc., voir les couleurs et essayer de trouver le sentiment qui est le plus près de ce qu'on veut inspirer et créer, démarrer son visuel à partir de ça. Ça, c'est un bon départ pour l'inspiration.
C'est un truc, pardon je te coupe, mais c'est un truc super important je pense à dire. Je pense qu'en t'écoutant, il y a plein de gens qui doivent se dire oui, bon, c'est un petit peu du blabla tout ça, que le bleu ce soit le calme, que le vert ce soit l'espérance et le rouge l'agressivité par exemple. Mais en fait non, c'est pas du blabla. Je sais que comme bien souvent, on a envie de se dire que tous ces trucs-là qu'on sait finalement, hein, on l'a entendu depuis toujours, enfin on le sait grosso modo, en tout cas dans les grandes lignes, on a souvent envie de se dire que c'est du blabla. Et en fait non. En fait, il y a vraiment réellement des codes qui sont et sociétaux et même plus larges que ça, qui sont en grande partie inconscients. Il y a une partie consciente et une grande partie inconsciente. Et ça joue énormément. Quand tu disais, quand on scrolle notre fil Instagram, on s'arrête. Des fois, c'est parce qu'il y a une image super bizarre qui nous arrête. Mais bien souvent, c'est pas ça, parce qu'on s'arrête quand même beaucoup plus souvent que juste sur une image bizarre. Qu'est-ce qui fait que vous arrêtez sur une image? C'est ce que tu disais. C'est une certaine harmonie de couleurs qui fait que, eh bien, ça nous parle. Et c'est pas du tout un hasard. Tout ce que tu dis là est totalement vrai. Il faut en prendre conscience. Les couleurs sont des codes qui nous disent des choses. Nous, en France, on n'a pas appris autant à les décoder consciemment que dans d'autres pays. Tu as des pays où la parole est moins libre qu'en France, et donc les personnes ont besoin de décoder les choses sans forcément les dire. Et ils sont encore plus rapides que nous, ou en tout cas, ils ont plus conscience peut-être que nous des codes, de tous ces codes dont tu parles là. Donc, je faisais juste une petite aparté pour dire, si là, vous êtes en train de vous dire « oui, mais ça, c'est un peu du blabla », croyez-moi, sincèrement, c'est pas du tout du blabla, faites l'essai. Juste faites l'essai, allez sur cet outil pour aller voir et tester des codes couleurs. Vous allez voir ce que ça va donner sur vos visuels et sur l'impact que vos visuels vont avoir. Ça change réellement les choses. C'est vraiment intéressant.
Exactement. Et en fait, donc là, quand je donne les significations des couleurs, je le fais grossièrement parce que ça se limite pas à ça. Il y a beaucoup de nuances et voilà. Mais ce qui est certain, c'est que ce que je mentionne en fait et ce que tu évoques aussi. C'est une donnée qui est importante, une thématique qui est très utilisée en politique, en publicité, et c'est ce qui relève de ce qu'on appelle le marketing d'influence. Et donc le marketing d'influence, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup en société. Par exemple, quand les politiciens préparent les élections, voilà, et qu'ils font appel à des agences de communication, on parle d'agences de communication de façon très globale, mais la vérité, c'est qu'on fait des tests et des études d'influence. Donc, cette notion-là, la question des couleurs, le choix de couleurs pour un parti ou le choix de couleurs pour une marque, ce n'est pas du tout anodin et ça arrange beaucoup les publicitaires que de penser que les gens pensent que c'est du blabla. Donc,
Exactement. Ouais, ouais. Et ça l'est pas. Et ça, tu vois, là, ce dont tu parles, ça me fait penser. Alors, je vais peut-être faire ma vieille quand je dis ça, mais moi, ça me fait penser tout de suite à, je sais pas si tu te souviens de Ségolène Royal quand elle s'était présentée, au présidentiel et qu'elle arrivait sur scène. Alors, de mémoire, elle était habillée en blanc et ça faisait une espèce de thème de virginité, de pureté, de vrai, de, etc., etc. Et c'était pas du tout un hasard. C'était une agence de pub. C'était de mémoire Ogilvy derrière, qui est mon ancienne agence de pub, mais je suis pas sûre de ça. Mais en tout cas, c'était une agence de pub derrière et tout était vraiment très analysé d'un point de vue psychologique, conscient, inconscient, etc. Il y a vraiment une véritable science derrière tout ça.
Et évidemment, donc, et en plus l'influence est reliée à beaucoup de choses, à la psychologie d'entreprise, à la psychologie de persuasion, etc. Je vous invite à vous renseigner sur ça parce que c'est absolument passionnant. Et je pense que c'est même nécessaire en fait de se renseigner sur ce genre de sujet, surtout dans le monde dans lequel on vit, où on est confronté à l'image de façon constante, où on est soumis à plusieurs influences de manière constante, gagner en liberté et en créativité et en autonomie, c'est aussi prendre conscience de ça. Donc, et puis surtout, c'est passionnant. Et on se rend compte aussi que, par exemple, en histoire de l'art, ce sont des thématiques qui sont étudiées. Ce que je dis, c'est pas du tout quelque chose de novateur pour des gens qui travaillent au Louvre, qui travaillent dans l'art contemporain. C'est des choses qu'ils savent, qui relèvent de l'évidence pure pour eux. Et puis, le dernier outil par rapport aux couleurs, c'est la Color Wheel qu'on utilise. Bon, c'est notre chouchou. Moi, c'est mon couteau suisse quotidien. En gros, par exemple, lorsque vous voulez créer une palette à partir d'une couleur, par exemple, vous avez la couleur de votre logo, une dominante de couleur. Vous entrez le code de votre couleur dans la Color Wheel et elle va vous extraire toutes les palettes possible à partir de votre couleur. Donc ça, c'est génial. Là aussi, c'est un outil qui est indispensable pour éviter les erreurs colorimétriques. Et donc voilà, donc c'est des alternatives très simples pour gérer la couleur et ne pas vous tromper, en tout cas à ce sujet-là, en sachant que le problème d'harmonie des couleurs, c'est un problème qui est majeur, qui est très très fréquent, et vous gagnerez, vous aurez clairement une longueur d'avance si vous évitez ce genre de couleurs colorimétriques qui gâchent un visuel clairement.
Ah, écoute, franchement, merci beaucoup parce qu'on a déjà dit énormément de choses. Et alors, de parler de couleurs, tu ne sais pas à quel point, je te l'ai pas dit, mais tu ne sais pas à quel point tu me fais plaisir. Moi, j'ai commencé ma carrière vraiment en travaillant la couleur. Tu vois, je travaillais le packaging. Pour tout te dire, je travaillais dans la cigarette. Donc, c'est un métier un petit peu particulier.
Mais c'est de marketing.
Ah, mais c'est quand on aime la couleur, la cigarette, pardon, hein, on met de côté les éléments éthiques. Mais juste pour, parce que j'ai pas envie de commencer un débat là-dessus, mais juste sur le packaging dans la cigarette, c'est un travail de la couleur qui est absolument phénoménal, super intéressant. Donc là, tu me fais vraiment plaisir de parler de couleur parce que c'était vraiment ma première passion en marketing. Tu vois, vois. Et vraiment, on pourrait faire mais 10 heures de podcast, je pense, rien qu'à parler de la couleur. Donc vraiment, ouais, tu me fais plaisir. Et vraiment, j'adore l'idée que Canva puisse nous aider et puisse nous aider à un petit peu démocratiser ces problématiques de couleur, parce que c'est pas forcément inné pour tous, même si c'est beaucoup de code inconscient, c'est que ça n'est quand même pas forcément inné. Donc, il faut se faire aider et cet outil nous aide vraiment là-dessus et sur plein d'autres choses. Donc, vraiment, merci de nous avoir donné tous ces tips. Afifia, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on veut te poser des questions, il y a peut-être des gens qui auront des questions après l'épisode.
Alors, pour des questions, on peut me contacter sur LinkedIn. Afifia Belhabdoun, vous pouvez me retrouver, tu pourras mettre le lien en bas, c'est yes, le meilleur endroit pour me poser des questions autour de Canva. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, sur Canva France.
Eh ben écoute, génial, je mets tous les liens évidemment, merci encore Afifia de nous avoir donné tous ces tips. Je me rends compte, je le savais avant qu'on fasse cet entretien, mais je savais qu'il y avait plein de choses et je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, bien sûr, sur Canva. Mais rien que ça, tu vois, très sincèrement, notamment le travail des couleurs. Moi, encore une fois, je te dis, je suis passionnée de ce point-là. Je trouve que c'est vraiment super intéressant d'aller voir tout ça. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour dessus. Merci encore, Afifia, de ton temps et de m'avoir expliqué tout ça.
Merci.
À très bientôt.
Avec plaisir. Au revoir.
Bon, je vous cache pas que j'ai eu du mal à arrêter cet entretien perso. J'aurais pu rester des heures à parler de couleurs. J'adore ça, c'est ce que je faisais au tout début de ma carrière. Du coup, c'est un peu ma petite Madeleine de Proust. Merci encore à Fifia d'avoir partagé avec nous tes bons conseils. Je sais pas vous, mais là tout de suite, moi j'ai qu'une envie, c'est de me ruer sur Canva pour essayer tous les outils dont Fifia nous a parlé et découvrir tous les autres, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup. Beaucoup plus que ça. D'ailleurs, si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités de Canva et en bénéficier au maximum, mon conseil, c'est de prendre l'abonnement Canva Pro. D'abord, le premier mois est offert, donc ça permet de tester sans se poser trop de questions. Mais surtout, je vous le disais au début de l'épisode, Afifia nous a réservé une surprise spécialement pour vous, les auditeurs et auditrices du podcast du marketing. Vous avez le droit à une réduction de 20% sur l'abonnement annuel. Et puisqu'il n'y a pas de bonnes nouvelles sans trois, Canva vient de changer son offre. Maintenant, quand vous prenez un abonnement, ben vous êtes 5 personnes à pouvoir en profiter. En fait, vous avez 4 comptes gratuits. Donc, je récapitule, vous avez un mois pour essayer, vous avez 20% de réduction et en plus, vous pouvez en faire profiter 4 personnes ou partager les frais. Là, ça, c'est vous qui voyez. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/canva. Il s'agit d'un lien d'affiliation, c'est-à-dire que si vous prenez un abonnement via ce lien, je toucherai une petite commission. Donc, je vous ai mis le lien en commentaire, sinon vous pouvez taper directement lepodcastdumarketing.com/canva. Je vous dis à très vite.